Très bien. C'est samedi. 18 juin, c'est ça? C'est pas une date clé dans l'histoire française ou... Non, c'est le 17 juin? Non.
Non, l'appel.
Oui.
C'est Général de Gaulle.
C'est le 18, c'est ça. Le 16 était Bloomsday. Je ne l'ai pas marqué spécialement, je travaillais. Bloomsday, c'est un appel à dire oui. Et, enfin, c'est une façon de voir. Bloomsday, c'est un appel à dire oui. Et l'appel du général de Gaulle, c'est un appel à dire non. En même temps, parce que c'était l'appel de résister en occupant, etc. En même temps, l'appel de Gaulle, c'est un appel à oui. Oui, la France éternelle, etc. Oui, notre peuple. Oui, à la vie, etc. Et l'appel Bloomsday, c'est une sorte d'appel à non. Non à la stagnation, à la fermeture, la convention, peut-être, les conventions, ce qui est convenu, etc. En tout cas, si on reste dans une optique de oui et non, il y aura toujours un point de référence. Et d'une certaine façon, oui et non fonctionnent sur le même terrain, parce que ce sont toujours oui vis-à-vis quelque chose et non vis-à-vis quelque chose. Alors, quelles sont les implications de ça dans notre vie de tous les jours? À chaque instant, quand moi je donne cette méditation, oui, que je donne parfois, yes meditation, ce n'est pas à juste dire oui à tout, ok, j'accepte tout ce qui vient. Parce que même dans l'acceptation, ça se situe par rapport à oui et non, par rapport à un point de référence. C'est plutôt un accueil. Et ça me fait penser que depuis un certain temps, c'est le premier vœu qu'on fait qui est innombrables sont les êtres vivants, je fais le vœu de les sauver tous. Ou en anglais, I vow to save them. J'aime pas trop ce vœu. Enfin, dans le sens que j'aime pas le mot save, sauver. Parce que ça implique que. Enfin, c'est problématique parce que ça implique qu'il y a des gens qui il faut sauver. Et donc, ça va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas et donc il faut le changer. Et il y a cette anecdote que Mark Epstein raconte dans un de ses livres, je ne me souviens pas lequel, peut-être dans un article, où il discutait avec Ram Dass, qui est un grand monsieur dans une autre vie, il s'appelait Richard Alpert et il était chercheur à Harvard. Il avait fait des expériences avec le LSD dans les années 50. Et puis il est allé en Inde et il a découvert les pratiques orientales. dans son cas, védantiste, et il a commencé à pratiquer, il a changé de nom, et il s'appelle Ramdas maintenant. C'est toujours un grand personnage dans la spiritualité occidentale. Il avait eu un AVC, il y a, je ne sais pas, peut-être 10 ans, et était sévèrement handicapé pendant un certain temps. Je pense qu'aujourd'hui ça va mieux, mais bon, c'était difficile. Et donc il pouvait à peine parler. Et Mark Epstein, qui est un psychothérapeute américain, mais pratiquant bouddhiste, avait beaucoup travaillé avec Ramdas, et donc il le visitait après son AVC. Et cette question de sauver les gens est venue. Et Mark Epstein disait combien il essayait, aussi bien dans sa pratique de thérapeute, que il se demandait comment on peut sauver les gens, etc. Et Ramdas lui a dit quelque chose et Mark Epstein n'a pas très bien compris parce que c'était très bien. Et donc il l'a fait répéter et Ramdas a dit déjà sauvé. Les gens sont déjà sauvés, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à sauver, ils sont déjà sauvés. Parce que dès qu'on se met dans cette optique de sauver, pas sauver, c'est l'équivalent des yes et no, oui et non, et ça devient très problématique. Alors, ça me travaille, disons. De toute façon, ce vœu est traduit de japonais, qui est traduit probablement de chinois, je ne sais pas. Et là, je ne sais pas comment c'est d'habitude, enfin, à l'origine. Quelle est l'expérience de ceux qui ont écrit ce vœu et le transmet, je ne sais pas. Donc je reste avec quelle est mon expérience de ce vœu. Et j'envisage de... Et donc aussi, il faut trouver une formule qui peut être chantée, qui est poétique, qui rentre dans le truc. Donc on ne peut pas... Quand on chante un vœu, on ne peut pas avoir une explication. Enfin, ou on ne peut pas avoir quelque chose de détaillé comme je fais maintenant. Mais c'est cette notion d'accueil qui est intéressante, ou recevoir. Donc ça pouvait être même je fais le vœu de les recevoir. Parce que c'est un. Ce n'est pas qu'il y a quelque chose à changer dans ces gens. C'est pas. Il y a une citation que Franck m'avait dit, dont je ne me souviens pas, où il y avait des différentes. Si on dit que quelque chose. Que, s'il faut. C'était avec aider, sauver, et je ne me souviens plus. J'avais déjà parlé de ça, est-ce que vous vous souvenez de ça? Et il y a une notion de quelque chose qui n'est pas bien, ou quelque chose qui est cassé, ou quelque chose qui doit être corrigé. Tandis que si on le reçoit, ou si on l'accueille, il n'y a pas cette notion. C'est juste, les êtres humains sont innombrables. Je fais le vœu de les écouter, de les accueillir, de juste être avec. Évidemment, je ne peux absolument pas, c'est impossible, je ne peux pas être avec tous les êtres, mais je peux essayer d'accueillir chaque être que je rencontre. Ça peut être mon aspiration de ça. Mais la notion de sauver, ça, on pouvait dire ok. Accueillir les gens, c'est les sauver. Mais dans cette notion de sauvetage, c'est quelqu'un qui coule et on va le. Moi, je vais être celui qui. Bon, tu vois, son nom, c'est celui qui sauve. C'est un peu problématique. Mais... Je ne lui ai pas donné ce nom, mais c'est son nom. Mais si, c'est, si on interprète sauver comme accueillir, donc c'est celui qui accueille. Qui accueille ce qui est là, qui vient, ou ce qui est là, ou ceux qui sont là, ceux qui viennent. Là, ça change tout parce que il n'y a plus cette danger qui est le danger dualiste, comment de bien mal, comme il faut pas, oui ou non. C'est très matérialiste comme démarche, disons. J'ai regardé, ils m'avaient prêté le Point, le magazine Le Point, qui a un dossier spécial, leur dossier spécial annuel sur la méditation. Normalement, c'est en été, c'est un peu tôt dans l'année pour ça. Ça a dû être une semaine un peu lent, donc c'était un dossier qu'ils pouvaient vite mettre sur la couverture. Et c'est. Bon, c'est intéressant que c'est dans l'air du temps qu'on parle de soi-disant la méditation. Mais évidemment, comme c'est pour le grand public, c'est fait par le grand public, pour le grand public, ça passe un peu à côté de quoi il s'agit. Et il y a un amalgame qui est fait de méditation et mindfulness sont interchangeables dans le dossier. C'est ce mode qu'il y a de mindfulness meditation, c'est vrai que c'est une technique de méditation, c'est vrai. Mais il y en a d'autres et ce n'est pas, ils ne sont pas interchangeables, disons. Mais la façon qu'on s'est présenté comme ça pour le grand public, c'est interchangeable. Et c'est un peu les clichés de. Ils vont visiter le centre zen à Zédi. Et ils ne l'identifient pas, ils disent simplement qu'ils sont allés dans le centre zen dans le 13e arrondissement, mais on sait tous ce que c'est. Et c'est une introduction qu'ils font chaque samedi. Et donc, on entend le moine qui fait l'introduction, et c'est des tartines beurrées du cliché zen, enfin, l'une après l'autre. Et donc le grand public va lire ça, et donc quand toi tu dis à quelqu'un qui a lu ce dossier que tu pratiques le zen, ils vont t'associer avec ça. Et ça n'a rien à voir en fait, ce que nous on fait. Tout ça pour, juste pour dire que ça m'avait frappé. Je savais plus ou moins de quoi il allait s'agir, mais ça m'intéresse toujours de voir que mes confrères journalistes vont faire avec un sujet, parce qu'on sait que si un sujet que nous on connaît autrement est traité comme ça, on peut être sûr que d'autres dossiers sont traités comme ça aussi, mais nous comme on ne sait pas, on croit que c'est comme ça, disons. Et comme je suis journaliste, je suis au courant de ce problème. Et tant qu'on reste dans cette tant qu'on traite la méditation comme une commodité, on dit commodité, on peut dire ça? Non, en anglais on dit commodity, quelque chose qu'on
une facilité?
Non, quand on peut marchander,
un bien, voilà.
Qu'on peut vendre, marchander, qui a des bienfaits, qui a des résultats. Parce que maintenant, dans l'article, maintenant, on fait la méditation à Google, on fait à Davos. Et donc, c'est présenté comme, voilà, maintenant, c'est une chose que même, qui rentre dans la société marchande dans laquelle on vit. C'est un produit qui est vendable. Voilà, il dit ça exactement comme ça, mais c'est ça. Et... et tant que c'est ça, tant que c'est une dérive possible, on ne va pas du tout aller au cœur de ce qui est. On va rester dans l'équivalent de sauver. C'est-à-dire que oui, on va être dans tout un dossier sur les bienfaits, les effets que ça a sur le... dépression, sur les gens qui ont le diabète, sur différentes problématiques, sclérose en plaques, etc. Mais, donc j'ai regardé pour voir, ah tiens, qu'est-ce qu'ils ont les résultats là-dessus, et en fait, il n'y en a pas. Ce qui plus ou moins est présenté, c'est que ça peut améliorer la façon que les gens vivent leur maladie. Ou leur problématique. C'est ça. C'est pas que ça va guérir les cancers. Ou ça va pas empêcher les gens de diabète. Mais ça affecte, bien qu'ils disent toujours, reste pas avéré. C'est pas vraiment... Parce que ça ne peut pas être avéré. Comme on va avérer le résultat de tel ou tel test scientifique. Mais c'est ça qu'on cherche en fait. C'est ça que la masse des gens qui font ça s'est présenté comme étant voilà les bienfaits, et donc on fait une séquence de 10 sessions de ce restant un truc de pleine conscience, qui est une étrange traduction. Je sais pas comment tu vas te débrouiller avec ça, mais bon. C'est bizarre comme traduction, mais bref, c'est leur traduction, des sciences de ça, et c'est pas qu'il y a quelque chose de mauvais dans ça, c'est juste que le problème, c'est que c'est confondu avec quelque chose d'autre qui est une pratique qui va à l'essence de l'être, où il s'agit de questionner, un questionnement constamment, tandis que dans cette pratique-là, il ne s'agit pas de questionnement. Si on dit que oui, après 10 séances, on va obtenir ceci ou cela, il n'y a pas du tout de questionnement là, en question. Enfin, tout ce que je n'essaie pas de dire que l'un est meilleur que l'autre, je dis simplement qu'ils sont différents. Et que le danger, c'est que c'est présenté comme le même. Même dans ce dossier, tout est mélangé. Qui est typique de notre époque, en fait. Où on voit le même phénomène, je sais pas, alimentation, où on essaie de faire manger tout le monde la même chose, etc. Dans l'Europe, où on veut que les Grecs fonctionnent comme les Suédois, les Italiens comme les Anglais, etc.
En fait, dans ces présentations, ça raconte moins ce que c'est que la méditation que notre approche, en fait, des choses. C'est-à-dire que on présente quelque chose, mais l'histoire que l'on raconte commence par l'histoire des bénéfices, des intérêts qu'on a à faire quelque chose. Et donc, le point d'arrivée, c'est ça, mais on va nous expliquer combien ça va être effectivement bénéfique pour tout un ensemble de sujets. Et donc, on ne ferait que les choses, en fait, par intérêt. Comment contourner cette stratégie? En fait, en faisant ça, on la contourne pas. Sauf si, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, sauf si, effectivement, c'est notre point d'entrée, parce que notre point d'entrée, il est utilitaire. Dans tout ce qu'on fait aujourd'hui, ça devient utilitaire. Et peut-être, ça peut nous amener éventuellement à... Une fois qu'on a fait notre programme de 8 semaines de pleine conscience, est-ce que ça nous ouvre une porte vers autre chose? De la même manière qu'on va chez un thérapeute parce qu'initialement, on a un problème très spécifique qu'on veut résoudre, et puis on vient d'ouvrir une porte, c'est notre point d'entrée. Mais que le point d'entrée n'a plus aucun intérêt. Enfin, on l'a laissé de côté et on n'est plus là pour ça. Si ça permet ça, c'est super. Si ça rentre dans ce truc très utilitariste, effectivement.
Pourquoi pas.
Exactement, c'est absolument. Ça. Mais c'est ça aussi ce que ça raconte. C'est-à-dire qu'on entre aujourd'hui dans des protocoles et dans des comportements que parce qu'on se dit qu'on va, en tirer quelque chose. Même le sport, ça devient ça.
Mais en même temps, c'est marrant parce que Mathieu Ricard, grand bouddhiste, lui-même participe à des expériences scientifiques sur l'impact de la méditation sur le cerveau. Qu'est-ce que ça provoque comme. C'est quoi l'état méditatif?
Absolument.
Et qu'est-ce que ça entraîne comme faculté?
Oui, et Mathieu Ricard, c'est un cas intéressant parce que, bon, d'abord, Mathieu Ricard n'enseigne pas la méditation de pleine conscience, c'est clair là-dessus. C'est intéressant, Mathieu Ricard, parce que c'est quelqu'un qui était un scientifique de haut niveau, enfin, qui avait une carrière très prometteuse devant lui et qui a tout lâché pour aller vivre et devenir moine en Inde. Et au Népal. Et pendant 25 ans, personne savait qui était Mathieu Ricard. Enfin, il a même, quand les Tibétains ont commencé à ouvrir les monastères en Dordogne, et il y avait beaucoup de Français qui allaient, donc il a demandé à son maître si c'est ça qu'il devrait faire, et son maître a dit non, tant que je suis en vie, tu restes avec moi. Et donc il est resté au Népal avec Dilgo Khenche pendant 25 ans. À un moment, fin des années 90, il a fait ce livre avec son père, ou discuté avec son père en fait. Son père est venu le voir au Népal, et son père étant un grand philosophe, ils ont discuté. Et un éditeur a proposé d'enregistrer ces conversations et de faire un livre. Et donc, ils l'ont fait. Et soudain, tout le monde a appris l'existence de Mathieu Ricard. Et je pense, bon, je l'ai rencontré moi à ce moment-là, donc je sais un peu comment il allait en... Il allait librement, mais il était un peu étonné par la réception de ce qui se passait en Occident avec ce qu'il présentait. Et à la suite, je crois qu'il a fait le calcul, enfin je sais, il l'a dit d'ailleurs, que c'était mieux de transmettre, la façon de transmettre ces enseignements que lui il a reçu dans une tradition, dans une situation traditionnelle où c'était très discret, confidentiel, où il n'allait pas avoir des masses de gens qui vont vivre dans un monastère au Népal, pas du tout. Et donc il a décidé que pour transmettre ça, il fallait, et lui il était bien situé pour le faire parce que il connaissait l'Occident, il a vécu là, il avait des entrées dans le beau monde en Occident parce que ses parents étaient célèbres, etc. Et il avait fait le calcul que c'était, il pouvait transmettre ça en trouvant, bon maintenant son truc c'est l'altruisme. Mais c'est juste une autre façon de présenter les enseignements tibétains, de non-attachement à soi, compassion, etc. Mais qui peut s'appliquer dans un contexte occidental. Comme il est scientifique et il adore ça, il a aussi, il y avait beaucoup de scientifiques qui s'intéressent au bouddhisme aussi, et donc il a accepté de faire ça. Tout en sachant qu'il ne s'agit pas de ça. Que pour montrer aux gens de l'Occident qu'il y a quelque chose d'important dans ce qu'il fait, il essayait de trouver quelque chose qu'il pouvait comprendre, les Occidentaux. Et science, on vit dans un monde scientifique, et donc science, c'était une porte d'entrée, encore une fois, une porte d'entrée. Mais Matthieu Ricard lui-même, bon, il fait des voyages partout, les conférences, etc., mais il n'a qu'une envie, c'est de retourner dans son ermitage où il fait des méditations solitaires pendant des mois au Népal. Il garde toujours son... comment dire, son costume de moine. Je pense que lui, il avait besoin de faire ça. C'était sa façon de vraiment couper et se libérer de tout, parce que pendant un temps il faisait l'aller-retour, il travaillait, puis il allait en Inde, puis il travaillait, etc., et ça marchait plus. Mais il est le premier à dire, d'ailleurs j'ai assisté à une conférence avec lui il n'y a pas longtemps, où la personne, tout le monde pendant le week-end parlait de prendre conscience, etc. Les gens qui organisaient les conférences, c'était à Bruxelles, faisaient la pleine conscience, mais on était quatre à être invités de différentes techniques de méditation à présenter. Et quand c'était le tour de Matthieu, il avait fait ça très subtilement, pas du tout avec violence, mais il avait fait comprendre que c'était bien le mindfulness, c'était bien ça, mais que Il s'agissait pas de ça en fait, que c'était, comme on dit, une porte ou une façon de stabiliser l'esprit pour pouvoir, et puis il a introduit une pratique de compassion, de metta, de comment on dit ça, de metta. J'étais très contente de voir comment il l'a fait, parce que c'est pas quelqu'un de... il ne va pas condamner, il soutient complètement ces trucs de mindfulness, etc., etc. Mais il voulait le situer en disant, oui, mais ce n'est pas que ça, il y a d'autres choses. Et encore une fois, je dis, quand on accueille ce qui est, on accueille ces techniques, toutes les techniques possibles. Ce n'est pas qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, c'est juste qu'il faut l'apprécier, la singularité de chacun. Et d'être clair sur si on apprécie la singularité de chaque, on apprécie la singularité de cette technique de pleine conscience, on le voit pour ce que c'est, on l'apprécie pour ce que c'est. Une autre pratique, le truc de metta, on l'apprécie pour ce que c'est. Euh, ou la pratique des courants qui est une technique de questionnement, de s'habituer, de s'installer dans un processus de questionnement. Il s'agit de le voir pour ce que c'est. Avant de lire ce dossier, j'étais confrontée à cette situation. J'ai un collègue au journal qui est aussi thérapeute. Elle fait mi-temps. Je lui avais dit que nous, on avait notre centre, qu'elle allait s'ouvrir, et que si elle connaissait des gens qui pouvaient être intéressés de faire des groupes, etc., notre centre, j'essaie de parler à tout le monde. Ok, elle était intéressée par ça. Et puis, quelques jours plus tard, elle est venue et elle me dit, enfin, on parlait de ce qu'on va faire après, quand on n'a plus nos boulots, etc. Et elle me dit, ah oui, tu pouvais avec ton mindfulness, en anglais, elle dit ça, tu pouvais faire avec ton mindfulness un truc pour les thérapeutes. Moi, je viens, hein, si tu le fais. Et je dis, j'enseigne pas le mindfulness. Mais pour elle, elle avait déjà fait un truc de mindfulness dans le contexte de son training de psychothérapeute, etc. Pour elle, je fais une méditation zen, bah, c'est la même chose, enfin. Et j'ai dit, je fais pas le mindfulness. Ceci dit, ça m'intéresse de faire quelque chose, des conférences ou un groupe de recherche ou d'études ou les pratiques pour les psychothérapeutes, les psychanalystes, etc., avec des méditations, etc. Bon. Mais même là, dans un contexte où je l'avais dit que c'est un centre où j'enseigne la méditation zen, je l'avais précisé, ça, ça veut rien dire. Alors, comment j'ai dérivé sur ça à partir de oui et non? Je crois que c'était un exemple de ça. Si on regarde oui et non un peu comme dans le contexte de non, c'est l'équivalent de tuer, et oui, c'est oui aussi. Si on reste sur le terrain de un point de référence, les deux, c'est de, il y en a un qui rejette qu'on ne veut pas, et il y a un autre qui essaie de saisir ce qu'on veut, ce qui est une autre façon de rejeter. Et de rejeter, c'est une autre façon de saisir. Parce que, d'ailleurs, ça me revient à mon saisir dans ce dossier, dans le point. Une des premières choses qui est dit, c'est la méditation, c'est pour saisir l'instant présent.
Saisir, c'est quoi?
Qu'est-ce qu'on fait alors? Si on reste pas dans cette dualité de oui et non, qu'est-ce qu'on fait? On a beaucoup de courants qui s'agit de ça. Hein.
Si le oui et non devient moins duel si c'est oui et non pas oui ou non.
Qu'est-ce que tu veux dire par ça?
D'abord, je crois que c'est un peu recto verso, c'est-à-dire que si on dit oui, il y a forcément un non qui est associé. Parce que tu l'as dit tout à l'heure, si on dit oui, on dit oui à certaines choses, donc implicitement on dit non aux autres, ou si on dit non à quelque chose, je ne sais pas si c'est vrai dans ce sens-là, mais j'ai l'impression que c'est indissociable et que si le oui, si on dit oui et non, ça me semble être moins dualiste, peut-être.
Dans le même temps, on dit oui et non.
Alternativement ou en même temps, oui, parce qu'à partir du moment où on dit il y a quelque chose, ça peut rester écarté.
Je suis pas sûre de suivre, mais dans ce que tu, le notion de oui, si je dis oui, je veux ce coussin noir. C'est vrai qu'en même temps, je suis en train de dire non, je ne veux pas les autres coussins. C'est ça que tu veux dire si on dit oui et non.
Oui.
Il existe toujours le oui et le non. Ouais.
Donc au lieu de les séparer et de les opposer, ça veut dire qu'ils sont combinés en fait.
Ils sont toujours combinés.
Voilà.
C'est ce que j'essaie de dire que tant qu'il y a, ils sont toujours vis-à-vis un point de référence. Et il s'agit de ne même pas avoir un point de référence.
Oui, c'est ça.
Il s'agit de même pas avoir ce terrain. Parce que c'est un terrain qui est oui et non, ou oui ou non, ou avec un point de référence. Et il s'agit de... Il n'y a même pas ça. C'est même pas oui et non, ou oui ou non. Bon, effectivement, si ça peut nous... ça peut alléger la dualité, peut-être, si on admet que, effectivement, quand je suis en train de dire oui, je suis aussi en train de dire non. Ça, c'est important de reconnaître ça. On a des cons là-dessus, hein, spécifiquement et pas. Enfin, implicitement et explicitement. Il y a le fameux les 30 coups de Tokusan. Si on répond oui, 30 coups. Si on répond non, 30 coups. Alors qu'est-ce qu'on fait? On essaie de dire je réponds pas. Mais non, parce que ça aussi c'est rester dans le, c'est chercher une sortie, disons. C'est chercher, si je dis ok, je réponds pas, c'est chercher de sortir, ce qui est une façon de rester dans le oui et non. Ça ne règle rien, disons. Et c'est les questions fondamentales, en fait. Oui, je vais mourir, alors je vais. À quoi bon? J'ai un ami de très longue date qui fume, mais terrible. Depuis toujours. Terrible. Et il dit toujours non, je ne vais pas arrêter parce que de toute façon, je vais mourir de quelque chose. Donc. Pourquoi arrêter? Ça me plaît. Pourquoi pas? Ceci n'est pas forcément une réponse à la mort, en fait. C'est plutôt un, je vais pas, où je suis anxieux vis-à-vis de la mort. Ce n'est pas une réponse à la vie, en fait. Disons. Bien qu'en quoi que. En tout cas, cette question de oui et non, c'est des questions essentielles de notre...
Je crois qu'on reste toujours un peu, d'une certaine manière, prisonnier du langage, et on fonctionne à la fois sur un langage ordinaire, qui est le langage dualiste, oui et non, et j'ai l'impression qu'on cherche toujours à exprimer avec ce même langage, puisqu'on n'a que ça, quelque chose qui permet de contourner tout en utilisant le langage ordinaire, puisqu'on n'a que ça, de contourner ce langage-là, mais que le oui du Bloomsday, il n'a absolument rien à voir avec le oui du langage ordinaire. Et j'ai l'impression que tous ces livres-là, c'est des tentatives à chaque fois un peu renouvelées pour renouveler ce langage et essayer de contourner cette logique du oui-non. Comment on dit l'indicible avec les mots ordinaires, quoi. Et qu'il faut renouveler en permanence, mais ça c'est presque absurde, mais en même temps, quoi faire d'autre ?
Ouais, il faut dire quelque chose.
Il faut bien dire quelque chose, et en même temps, on a l'impression que tous ces livres répètent toujours pointent toujours vers ce même truc indicible, en disant c'est là que ça se passe, et c'est à ce goût-là, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Mais en même temps, je vais bien vous dire ça, si vous voulez, on fait une encyclopédie là-dessus. Mais.
Bah oui, et c'était le dilemme à l'origine pour le Bouddha. C'était que je peux rien dire.
Et on en fait des choses très compliquées, très conceptuelles, et ça me faisait marrer parce que hier j'étais en train de traduire là, je fais un booklet là pour le mindfulness justement en pleine conscience, et donc à un moment à la fin il y avait les pédigrés de chacun, les cursus de chacun, alors toute leur formation, alors c'était PNL, machin, truc. Il y avait même des choses avec. Il y en avait un, c'était, je sais plus ce que c'était, mais c'était. Il y avait marqué le petit TM, trademark. Tu vois, donc c'est vraiment pleine conscience, trademark, insight, meditation, trademark, etc., etc. On invente des concepts marketing avec derrière des enjeux de formation et puis le communication non violente et puis le machin et le truc et le machin. Chacun avec son. Et puis donc on a. C'est comme les footballeurs avec leur logo sur les sur leur t-shirt. Bon. Avec à chaque fois, c'est voilà, on apprend des choses, hein. On a tous passé par une partie de tous ces protocoles et ce.
En même temps, est-ce que ils mettent tous ces titres pour. Se valoriser eux-mêmes, ils s'identifient, ou bien est-ce qu'ils le mettent juste comme porte d'entrée pour les gens ?
C'est ça, c'est aussi les gens, on préfère savoir que tu as été hyper bien formé, et en même temps, il y a quelque chose de
que tu prends. Mais comme tu disais, les gens n'ont que ça pour
être. Oui, oui.
Et je crois que c'est notre esprit.
Absolument.
Si je peux réagir à ce que tu disais tout à l'heure, la distinction entre mindfulness et la méditation. Oui, elle est sans doute très précise pour les gens qui présentent un maître zen, c'est par certainement d'un autre endroit que un instructeur de mindfulness. Mais est-ce que pour les gens qui reçoivent, il y a une telle différence ? Si je prends mon exemple, dans mes années de. Je ne sais pas si je vais dire de méditation, de pratique à côté. Avec mon esprit sans doute bien occidental, bien dualiste, c'était pour attraper quelque chose, pour être plus, pour être enfin plus ouverte, être enfin plus aimante. Et donc, à partir de là, il y avait vraiment une. Je disais non à ce que j'étais. Dans l'instant présent. Et tout ce que tu disais tout à l'heure, je me disais, mais en fin de compte, je crois que ça dépend vraiment de la personne qui reçoit. Et je me demande même, je ne sais pas, mais en tout cas pour moi ça a été nécessaire, pour moi j'étais vraiment obligée de passer par ce grasping, pas tant d'avoir. C'est le matérialisme spirituel dont parle Trungpa.
Exactement.
C'est,
et on est en plein dedans.
En plein dedans et est-ce que j'y suis plus encore ? Je ne sais pas, j'en sais rien finalement. Je ne suis plus au même endroit, c'est certain. Où je suis, je ne sais pas trop. Enfin, ouais.
Oui.
Mais en tout cas, c'était.
C'est exactement, c'est ça. Il était très prophétique, Trungpa. Enfin, il voyait parce que ça existait déjà à son époque. Mais là, on est en plein essor de matérialisme spirituel. Et le fait que, évidemment, chacun vienne avec des espoirs, des quêtes de ceci ou là, bonheur, paix, je ne sais pas, hein, tout le monde vient avec ça, évidemment. Par contre, toutes les pratiques ne vont pas répondre à ça de la même façon. Et donc, si tu trouves une pratique qui mindfulness qui te dit, qui te promet que oui, tu vas être guéri, enfin, c'est comme le psychanalyste, ils vont jamais parler de guérison, la psychanalyse. Tandis qu'un thérapeute comportementaliste va dire que ça va être réglé. Mais c'est pas que l'un est meilleur que l'autre, c'est juste qu'ils sont différents. Et donc, on va peut-être venir avec le même symptôme pour un psychanalyste ou un psychologue comportementaliste, mais on va pas avoir le même, entre guillemets, traitement. L'approche est différente, c'est pareil avec les différentes écoles ou je ne sais pas, traditions, méditation, etc. Mais c'est la même chose dans la thérapie. Tu lis un truc sur les articles, ils vont dire ah oui, un tel, il n'a jamais voulu aller sur le divan. Ou et finalement, il a passé quelques années sur le divan. Et puis tu apprends qu'il n'a pas du tout fait un psychanalyse. Il a été avec un thérapeute quelconque, enfin quelconque dans le sens d'un PNL ou je ne sais pas. Il ne s'agissait pas du tout du divan, mais c'est confondu dans les esprits des gens. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas que l'un est meilleur que l'autre, mais c'est juste différent. Et tant que on reste dans cette, oui, c'est vrai que les gens. Moi, je suis obligée de mettre sur mes papiers, oui, je suis certifiée dans ce lignage. Bon. Ou que j'ai travaillé à tel ou tel journal. C'est vrai, c'est comme une carte de visite. Mais c'est pas du tout ça dont il s'agit. C'est pas du tout ça.
Mais je pense que dans le début du mindfulness, c'était aussi pas ça. Quand on voit comme John Kabat-Zinn, comme on voit comme Edel, ce sont des gens qui méditaient et qui avaient avec. C'était vraiment à recueillir. Edel, il est un psychiatre, il dit son expérience est moi, j'essaye de guérir les personnes avec toute mon éducation de médecin et de psychiatre, mais le plus précieux que j'ai appris, c'est la méditation et ce qu'on peut avoir là. Je ne peux pas. Est-ce qu'il y a un moyen où je peux apporter ça aux gens? Et ça, c'était le début aussi pour lui et pour John Kabat-Zinn pour commencer avec toute cette chose de mindfulness. Et dans ce sens, c'est très. C'est un peu confondu, c'est très bouddhiste. Hein? John Kabat-Zinn disait. Dans le temps, I teach Buddhism without Buddhism, et pour le moment, il est plus que c'est en fait un pratique bouddhiste. Tu penses que c'est pour ça dépend aussi du personne qui enseigne. Il y en a,
oui, les contextes. Il
y en a qui ont tout ce contexte bouddhiste et qui savent pour faire le pont et pour aider, sauver ou quelque chose dans le monde, on doit l'appeler mindfulness et tout ça, et il y en a d'autres qui font trademark ou quelque chose. Je pense qu'il y a tout différentes pratiques aussi
bien sûr.
Et il y a quand même c'est une sorte de continue, je sais pas, c'est une ligne comme ça. Comme chez Edel, je crois. Il a un groupe Zen, et il a le Zen et tout ça, et il a son pratique mindfulness. Et l'un, c'est différent, mais l'un est dans
continuation.
Et ça peut aussi.
Et la femme que Joe a traduit, c'est ça aussi.
C'est
là. Oui, c'est elle, une formatrice. Mais ce qui est intéressant, et ça rejoint l'anecdote, je trouve ça très intéressant, l'anecdote sur Maturika avec sa robe, c'est aussi. différents outils qui répondent à nos différents besoins, enfin, c'est-à-dire ce dont on a besoin, nous, pour aborder ça. Mm-hmm. Et parfois, il y a des gens qui vraiment ont besoin de l'aspect scientifique pour rentrer dans quelque chose parce que ça leur parle, et ou d'autres, c'est j'ai besoin d'avoir une robe parce que pour moi, c'est je m'identifie à ça, et c'est ou ça m'aide à. Et l'autre chose que j'ai ça sous les yeux, et c'est vraiment frappant aussi combien, et ça rejoint ce que tu disais aussi par rapport à ce que nos motivations profondes au-delà des aspects techniques qui nous font réagir, la promesse, je vois, practical steps to ultimate truth. Ooh, wow. Le secret de l'éveil. Wow, that's a big thing. Et c'est que ça, en fait. Il y a ce côté, encore une fois, on a du mal à se... Même dans l'enseignement lui-même, il y a au cœur de l'enseignement un truc très fort de promesse.
Oui. Alors qui est plus ou moins marqué selon les teachers, ouais. Mais je me sentais très fort à côté.
Bien sûr.
Moi, mon entendement.
Bien sûr, absolument. Bien sûr.
Le bonheur de la méditation. Ouais, il y a une sorte de... C'est hyper fort. Et comment, encore une fois, quels sont les... À la fois, c'est nos motifs. On se dit... Enfin, je pense que c'est aussi une voie de perdition. Moi, je regarde beaucoup là, les trucs de Rajneesh Osho, et je vois aussi combien ça peut être un truc sans fin d'excitation profonde, de matérialisme spirituel, et de aussi de ça nous fait nous sentir aussi comme une merde profonde en se disant oh, ces gens-là ont manifestement atteint un truc mais incroyable, après c'est leurs 25 ans là dans leur monastère au fin fond du Népal, mais moi à Paris, qu'est-ce que... Et on se dit, et on y va, et on plonge là-dedans en se disant, il y a ce truc-là, manifestement, que ces gens-là ont vu, incroyable, d'un taste flavor absolument délicieux. Comment est-ce que moi aussi, je vais réussir à obtenir ce truc-là? Je trouve que c'est très...
C'est humain.
Et ça nous embourbe, en fait, énormément, je pense.
Et c'est important de reconnaître ça et rester très vigilant. Alors, quelles sont mes attentes? Qu'est-ce que je projette dans ce que je vais obtenir ou je vais devenir? Ou, je dis pas pour moi-même aussi, quand je parle aux gens, est-ce que je promets quelque chose? Est-ce que je vais leur donner l'impression que, etc. Pour chacun, c'est très important de rester conscient de ça.
Parce que c'est le plus dur avec le zen, en plus, c'est que...
Oui. C'est quoi?
C'est que rien.
Dans les textes. Dans les textes, il y a sans cesse, ça, je vais vous sauver, l'éveil, c'est ceci, en permanence. Donc si on a personne qui fait le filtre et qui nous dit... c'est autre chose, je trouve que les textes sont terribles.
quel texte, attends, parce que si tu lis les...
Tout le temps, dans les histoires que tu racontes, rien que ça, il rencontre l'éveil, c'est ce que tu dis. Ah bon, il rencontre l'éveil, alors comment il fait, qu'est-ce qu'il peut faire, et moi je le suis
rien que ça.
Mais aussi, ce que tu as dit tout à l'heure, je fais de les sauver tous, il y a plein de choses qui sont terribles, je trouve.
Et comment est-ce que, je veux dire, on a une problématique très concrète demain, ou même presque aujourd'hui, de comment on va attirer dans notre lieu. Et si tu dis aux gens, vous savez quoi, il n'y a rien,
ça ne sert à rien,
on n'a aucune promesse, ça va absolument avoir aucun... ou alors c'est vraiment marginal. C'est pas très vendeur, effectivement. Mais c'est quelque chose de très réel, parce que moi j'ai vécu ça aussi au centre... Comment est-ce que... Et moi, je trouve la chose que je trouvais intéressante à dire, c'est effectivement c'est cette idée de stratégie de contournement, quoi, d'observer frontalement effectivement tous ces désirs de promesses qu'on a et d'essayer de trouver un moyen de les contourner, quoi, en fait, en s'en rendant compte, quoi, c'est ça presque. Mais de nouveau, ça devient une promesse. La promesse de prendre en compte, de réaliser les promesses qu'on a pour contourner les promesses, et ça devient en soi une promesse. Donc c'est indécrottable, le truc.
Ouais. Et j'ai même envie d'aller encore plus loin que ce que tu dis. Enfin, je ne sais pas si c'est plus loin, j'en sais rien. Mais même au niveau de l'assise, l'expérience, de certaines expériences en assise ou suite à l'intensif, etc., qui deviennent, desquelles j'ai pu faire une promesse d'autant plus atteignable quelque part, que j'avais vécu cette, je ne sais pas, c'est, par moments, ces états d'ouverture, d'amour débordant, enfin, ou incommensurable que je pouvais sentir en moi. Et donc, de ça, de l'expérience elle-même, au-delà de tous les mots ou de ce que je pouvais entendre, c'était, comment dire, c'était réel, c'était pas des mots, c'était dans mon expérience elle-même. Et tout ça, ça devenait une promesse. Et comment, devenant une promesse, puisque je sortais de cet état, évidemment, je ne restais pas. Ça a bien été mon désespoir pendant des années. je n'étais plus avec ce que j'étais, et je disais non à ce que j'étais. Mais je veux dire, même au-delà des mots que je pouvais entendre, l'expérience elle-même, elle est, pour moi, elle a été tricky quelque part.
Ce qui est tricky, c'est que ce n'est pas l'expérience, c'est ce que j'en fais.
Oui, je suis d'accord. Ce que j'en faisais.
Et c'est ça qui est.
Pour décoller de ça.
Bah oui. Bien sûr. Bien sûr. Et c'est pour ça que c'est important.
Mais il va falloir l'analyse. Ça n'a pas été avec l'analyse.
Tous les moyens sont bons pour se détacher de ça. Hein. Parce que, effectivement. Mais c'est justement exactement ça qu'on essaie de dire. Ok. On va dire. Sophie dit que dans les textes, c'est toujours le vent d'éveil, etc. Mais de quoi il s'agit, cet éveil, en fait? De quoi il s'agit? Il s'agit. Quoi? Il s'agit de voir qu'il n'y en a pas. Enfin, c'est quelque chose comme ça. Mais, et donc, il y a des moments où ce n'est pas approprié de dire, c'est même pas la peine de le faire parce qu'il n'y a rien à faire. Enfin, je ne dirai jamais ça parce que c'est pas vrai. Mais il y a des moments où c'est pas approprié. Il y a des moments où c'est approprié de dire, voilà, s'asseoir, regarder ce qui se passe, vous allez voir. On ne sait pas quoi, mais il y aura quelque chose. Mais c'est vrai, c'est pas que je promets des bonbons, hein. C'est vrai que si on s'assoit, je sais par mon expérience qu'il y a quelque chose qui se passe. Je ne sais pas quoi, mais oui.
Y compris, c'est ça pour moi aussi, y compris courir après le désir de voir qu'il n'y a rien à voir.
Exactement. Le mec zen dans le livre, le truc du point, il termine en disant, je vois exactement le type, je crois que je l'ai déjà rencontré. Ah oui, il m'a fallu 10 ans de chier sur mon coussin pour voir qu'il n'y avait rien à chercher. Mais c'est des bobards, ça, enfin, dire, parce que c'est pas ça dont il s'agit. Enfin, je t'ai un peu piégée le week-end, pas ce week-end, mais le week-end avant, quand j'étais à Porto, je faisais un workshop, et j'avais fait l'astuce de Bernie, où j'ai demandé aux gens de faire une liste de toutes les questions que les gens avaient, et puis je prenais la liste et je répondais en discutant, etc. Et une des questions était de quel était mon parcours, comment je suis venue à la pratique, etc. Alors, j'étais un peu embêtée parce que comment je vais parler de mon parcours sans donner aux gens l'impression que leur parcours doit y être pareil. Parce que chacun a son parcours et chacun est singulier et différente que d'un autre. Et on ne peut pas avoir un parcours comme quelqu'un d'autre. C'est impossible et ça n'a aucun intérêt. Parce que ce qui est intéressant, c'est notre parcours à nous. Voilà. En même temps, je trouvais que c'était important de répondre à cette question, parce qu'il y avait aussi des questions. Comment c'est d'être mère et pratiquant les gens, ils étaient très intéressés par mon parcours.
Particulier.
Quoi?
Particulier.
Oui. Et je, comme je ne connaissais pas ces gens, enfin, il y avait des gens de notre sangha qui étaient présents aussi, mais bon. Et donc, j'ai raconté mon parcours. Qui est un exemple pour moi, c'est un rappel constant pour moi, que ce qu'on appelle éveil est accessible à tout le monde, à chaque instant. On n'a pas besoin de toutes ces formes et toutes ces beams, etc. C'est vraiment... J'estime que je suis venue de nulle part. Et pour moi, c'est une inspiration constante pour moi-même, mais aussi qui peut servir aux autres, que c'est accessible à tout le monde. En même temps, c'est très dangereux. Enfin, c'est pas dangereux dans le sens de danger, mais il faut que ce soit juste de façon que je le présente, parce que je ne veux pas établir un truc extraordinaire que les gens vont chercher à atteindre. Alors, c'est un peu être sur le fil des oiseaux, le rasoir. Et la seule possibilité, c'est de rester dans le contexte à qui je m'adresse, dans le moment, et de quoi il s'agit, pourquoi je raconte ça. Si je raconte ça pour me vanter, pour donner les gens l'impression qu'il y a un truc extraordinaire qui les attend, il faut y aller, il faut faire comme moi, ça va être à côté de la plaque. Si j'essaie de minimaliser et de dire c'est rien, comme un enfant qui est blessé et la mère dit c'est rien, arrête de pleurer. Si j'essaie de minimaliser, ça va être à côté de la plaque aussi. Donc il s'agit de rester complètement dans le contexte, dans l'instant, de quoi il s'agit, quelle est la demande, à qui je m'adresse, et ce sera, je pense que c'est le meilleur que je puisse faire. Je me souviens quand Roshi est venu à Pâques au Portugal, et il y avait tous ces gens, etc., et quand elle parlait, elle dit: oui, quand Amy est venue, elle a raconté un peu notre parcours ensemble, elle et moi. Et elle avait dit, oui, quand Amy est venue, après cette expérience, que vous avez certainement tous entendu. Mais personne n'avait entendu, parce que j'en parle pas. Parce que les situations ne se présentent pas. C'est pas comme si je vais... C'est pas ça le but de cette pratique. C'était mon parcours à moi, qui est incarné là aujourd'hui comme je suis. C'est pas comme tu dis, et j'ai dit à ces gens à Porto, il faut ajouter qu'il m'a fallu beaucoup, beaucoup de travail et grâce à la rencontre avec un maître pour me permettre de lâcher cette histoire. Parce que comme tu dis, c'est dur.
Ça va être un deuil.
Et je ne l'avais pas vécu à l'époque comme ça, mais c'est vrai, je comprends que tu dis ça. Le fait est que, c'est comme ce truc de Confucius que j'adore, c'est qu'on a deux vies. Et le deuxième commence quand on se rend compte qu'on n'a qu'une. Donc c'est ça qu'on promet aux gens. Mais c'est vrai. Et le fait de lâcher tout mon parcours m'a permis de voir que chaque instant, c'est le parcours. Et que chaque instant, je vis ça. J'ai l'impression qu'il faudrait retourner et vivre exactement la même chose, mais c'est chaque instant que c'est vécu, ça. Et donc, alors là, j'avais fort à faire, et elle aussi, mon maître, elle avait fort à faire pour m'aider à sortir de ça, mais heureusement que j'avais confiance en elle, parce que...
Et puis qu'elle t'a pas lâché.
Oui, et moi je ne m'ai pas lâché, je ne suis pas lâchée de ça non plus, parce que là, effectivement, c'est...
Quand tu dis à chaque instant, c'est la même chose, c'est-à-dire de lâcher ce qu'il y avait avant et d'être dans ce qui est ici maintenant ?
C'est une façon de le dire. C'est d'être... qu'il n'y a rien que ceci, c'est ça.
Oui, et qu'il n'y a pas un simple avant et après. Enfin, il y a, mais...
Il s'agit de maintenant.
Il y a en permanence un avant et un après, quoi. C'est un mouvement.
Voilà, et que s'accrocher à quelque chose qui s'est passé auparavant ou se projeter vers quelque chose qu'on espère, on va avoir que des emmerdes. On ne va jamais être avec ce qui est. On va toujours être. Et quand on parle de ces expériences, quand Brigitte ou moi on parle de ces expériences, l'expérience c'est d'être juste avec ce qui est. Et c'est un tel merveille parce qu'on n'a jamais fait. On n'a jamais goûté à ça. Enfin, je pense que quand on est enfant, on goûte de ça régulièrement. Mais c'est vite oublié. Ou on dit que c'est pas la peine, il ne s'agit pas de ça, etc. Et donc la nature même de cette chose qui nous plaît tellement, en s'accrochant à ça, on va contre la nature de ça. On va dans la direction opposée, disons. Et ça se traduit dans l'instant, ici, par s'accrocher au passé et se projeter dans l'avenir, plutôt que de juste être là avec ce qui est. Mais ça semble simple, juste accueillir ce qui est. Je reviens au début de l'accueil dont je parlais. Ça semble simple. Ouh, mais non, parce que on a tellement d'attentes, de projections, d'attachements. Et quand je dis ça, je parle de mon expérience. Je raconte pas du tout des trucs théoriques, etc.
Je pense que le témoignage de son expérience, le fait d'être là et avec parole ou sans,
avec
parole, racontant ou sans parole, ça permet d'être en dehors des promesses, justement. C'est-à-dire que c'est bearing witness de ce qu'est l'autre, de ce que je suis, de ce que nous sommes. Et non, s'il n'y avait pas eu ce témoignage, enfin, le fait de te côtoyer depuis 11 ans, pour moi, c'est ce qui a été beaucoup plus fort que les textes, qui en général sont plus répulsifs pour moi qu'autre chose. Voilà. Et donc, parce que aussi, tu n'es pas dans la promesse, t'as pas les mêmes textes que. Enfin, tu les dis, mais voilà. Et donc, c'est être et offrir ce qu'on est. Enfin, pour moi, c'est la meilleure façon.
Ah oui. D'autres gens, quelqu'un d'autre va avoir un autre parcours,
bien sûr.
Donc, c'est chaque parcours est valable. Mais dans la tradition zen, en général, avec bien sûr divers variations, c'est ça, c'est le principe, enfin la fondation, c'était avec Bodhidharma qui disait c'est un enseignement qui est en dehors des textes, qui va directement au cœur de l'être. Et ce n'est pas pour rien que c'est transmis par un être vivant vers un autre être vivant. C'est toujours comme ça. On est censé, on dit, je fais le vœu de l'incarner.
Je vais faire une comparaison que je n'avais jamais faite. C'est l'horreur des textes dans lesquels j'ai été élevée, catholique. On prône la culpabilité, la punition, le péché, etc. Là, c'est presque l'inverse. On dit, c'est... Voilà. Et les deux, pour moi, sont terribles.
Il n'y a pas que ça, il y a des textes, j'ai un texte en tête là, de Djokovic, qui sont d'un... Il y a rien.
Ouais. C'est le quotidien.
C'est les schémas.
C'est tout mieux.
C'est ça, il y a ça aussi. Il existe aussi.
Je ne dis pas que c'est tout comme ça.
Oui, parce que quand tu parles des textes, je ne sais pas exactement de quoi tu parles. Si c'est des koans, si c'est des sutras, qu'en récit.
Mais non, mais rien que les quatre vœux.
Quoi ?
Rien que les quatre vœux dont tu as parlé tout à l'heure.
Ça promet des choses.
Bah, je fais le vœu de les sauver tous. Enfin, c'est ce que tu as dit. Moi, ça m'a toujours
c'est
aussi.
C'est plus dur celui-là.
Quoi ?
Quoi ?
C'est plus dur comme tu disais au début.
Oui.
À prononcer.
Alors, oui, c'est vrai. En même temps, et j'ai fait des talks là-dessus sur les quatre vœux parce que il y a une façon si on les vit ces vœux, si on les prend comme une pratique, c'est autre chose.
Mais oui, tu avais fait un talk au Portugal.
Oui. ça n'enlève rien du fait que c'est important d'être très précis. Et quand on parle aussi des mindfulness, etc., beaucoup de problématiques de ça, mais ça aussi c'est un symptôme de notre époque, c'est la façon que c'est présenté dans les médias. Donc c'est parce que, effectivement, il y a des gens qui... À l'origine, ces trucs de mindfulness, c'était dans les hôpitaux. C'était Jon Kabat-Zinn, c'est un médecin. Et il introduisait ça dans le contexte de l'hôpital. Pour revenir à l'histoire des textes, oui, c'est... OK, est-ce qu'on peut ne pas être attaché à notre interprétation d'un texte ou notre expérience à un texte? Et s'ouvrir autour et essayer de... C'est ça que le zen, comme on disait, le langage, c'est problématique. Le zen emploie toujours cette négative. C'est le non-pensé, le non-effort. Pour essayer de nous retirer le tapis sur notre façon d'aborder même le langage. La voix du Bouddha est insurpassable et la voix du Bouddha. Alors, qu'est-ce que c'est insurpassable? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est le voie du Bouddha? Et qu'est-ce que c'est, je fais le vœu? Et qu'est-ce que c'est, incarné? C'est là où le questionnement vient. C'est là, on prend ces trucs comme un comment. Alors, qu'est-ce que c'est le voie du Bouddha?
Alors, en revanche, par rapport au texte, les textes, je l'ai déjà dit, mais les textes que je trouve absolument magnifiques, c'est dans les engagements qu'on prend. Où on dit je fais le vœu d'éviter de, c'est-à-dire que c'est pas je ne tuerai plus jamais, c'est je fais le vœu d'éviter de, et ça je trouve ça merveilleux. Voilà, ça c'est une grande autorisation pour moi.
Avec les quatre vœux, c'est impossible, c'est les vœux impossibles. Donc de même façon, c'est un peu je vais essayer d'incarner cette voix qui est insurpassable. Insurpassable, ça ne veut pas dire que c'est le meilleur. Souvent, on va interpréter ça comme ça. Ah, mais alors, qu'est-ce que c'est que ces bouddhistes, ils disent que leur chemin est le meilleur et qu'ils vont l'incarner. Mais ce n'est pas du tout ça. C'est qu'il n'y a rien à l'extérieur de ça. C'est la vie entière, c'est la voie. Et, bon, je fais le vœu d'être pleinement dans ma vie. Enfin,
c'est... D'être ce que je suis.
Quoi ?
D'être ce que je suis,
voilà. Bon, c'est pas évident, c'est un sacré programme, mais c'est... Bon, j'aimerais bien être pleinement qui je suis. Bon.
Et comme les quatre vœux, précisément, on ne peut pas les... d'un point de vue formel, concret, pleinement les réaliser, ce n'est pas une promesse en réalité, ça ne peut pas être une promesse, puisqu'on sait très bien que c'est juste impossible. Donc ça ne fait que renvoyer en fait à l'instant présent en réalité.
À chaque instant.
À chaque instant. Je fais ce que je peux pour, mais pas plus en fait. Donc il n'y a pas de projection possible en fait vers la réalisation d'une promesse en réalité.
Il faut des années pratiques pour arriver à ça.
Peut-être. Et, ou peut-être jamais.
Peut-être jamais.
Peut-être. Et même, c'est, mais ce n'est pas une réalisation.
Une fois pour toutes.
Voilà, c'est ça, c'est encore et encore et encore. C'est pour ça que je dis, bon, je vais donner des talks sur les vœux, mais aujourd'hui, si je faisais des talks sur les vœux, ce sera autre chose. Je pense que je n'ai jamais, dans le talk précédent que j'avais fait, je n'avais pas interprété le dernier vœu comme ça. Je ne sais pas comment je l'ai.
Tu n'avais, je ne t'ai jamais entendu dire non plus que je fais le vœu de les sauver tous de travailler, de jamais.
Voilà, donc voilà, à chaque instant, tout est possible.
Oui.
Et peut-être que pendant des années, j'avais dit pas de centre, pas de lieu fixe, etc. Bon, bah, c'est plus ça. Ça a changé.
On a des wildflowers en pot maintenant.
Je ne le vis pas comme ça. Je ne le vis pas comme ça, mais... Si des gens veulent voir ça comme ça, pourquoi pas.
Non mais là on aura un pot tous les cas pour les mains.
Quel pot,
un grand pot.
Voilà.
80 mètres carrés de pot.
Moi je le vis comme juste un autre terrain. Ouais. C'est juste un autre terrain. Pour essayer de voir ce qui vient, parce que ce sera forcément des fleurs sauvages qui viennent. Ça peut pas être autrement. Et je pense que pour voir si dans le truc de centre, je voyais que je commençais à être un peu identifiée avec le fait qu'on n'avait pas de Dieu. Et donc je me suis questionnée par rapport à ça. Qu'est-ce que c'est cette identification de ne pas avoir de Dieu? Et les circonstances ont changé, donc comme... Dans chaque circonstance, il s'agit de dire différentes choses à différentes personnes. Le contexte de la pratique, pour nous, a changé aussi. Pour moi, principalement. Enfin, concrètement, parce que je n'ai plus les mêmes exigences familiales ni professionnelles. Et donc, et j'ai aussi grandi dans ma pratique, donc c'est le moment de faire autre chose. Ben, ça revient à accueillir ce qui est, les circonstances, les conditions... Quelle heure est-il là?
1h30.
Ah oui, bouf, on a parlé longtemps. Mais c'est un sujet que tout le monde qui était animé. Tout le monde était animé par ce sujet. Ok.